France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, Inde-Pakistan, est-ce que la guerre s'éloigne? Léon XIV, le bon pape au bon moment? Et la trêve est-elle un horizon durable pour l'Ukraine? Nos débatteurs ce dimanche, Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, vous avez publié chez Flammarion « L'art de la paix ». Natacha Valla, bonjour.
Bonjour.
Économiste, doyenne de l'école du management et de l'innovation à Sciences Po. Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour, Eric Gardette.
Historien, directeur de l'Institut français des relations internationales, votre dernier ouvrage « L'accélération de l'histoire » aux éditions Talendier. Et Laetitia Stroche-Bonnard, bonjour.
Bonjour.
Essayiste, votre dernier livre « La gratitude, récit politique » d'une trajectoire inattendue a été publiée aux éditions de l'Observatoire. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur l'élection du successeur du pape François. Encore un Américain, non pas du Sud, mais du Nord. Pour la première fois, le pape vient des États-Unis. S'agit-il d'un heureux hasard? Nous en discuterons. Nous évoquerons aussi l'initiative européenne en faveur d'une trêve de 30 jours entre l'Ukraine et la Russie. Vladimir Poutine répond en proposant des négociations directes avec Kiev. S'agit-il d'un tournant? Mais pour commencer, direction l'Inde et le Pakistan. Les deux pays se sont affrontés militairement ces derniers jours avant l'annonce hier d'un cessez-le-feu plus ou moins bien respecté. Est-ce à dire que le pire a été évité?
Après 4 jours d'affrontement, l'Inde et le Pakistan sont donc prêts à un cessez-le-feu immédiat. Une source au sein du gouvernement indien indique que l'accord a été négocié directement entre les deux parties. Précision faite après que le président américain annonçait la trêve sur son réseau social. Les deux puissances nucléaires, je le rappelle, qui ce matin encore continuaient de s'attaquer l'une et l'autre.
Alors une nouvelle guerre est-elle été évitée de justesse entre l'Inde et le Pakistan ou bien les deux pays sont-ils encore à la lisière d'un conflit ouvert? Ce qui est certain, c'est que du côté de New Delhi, comme celui d'Islamabad, le ton est plutôt à la désescalade militaire après que Donald Trump a annoncé samedi un cessez-le-feu immédiat et complet. Un soulagement après la séquence entamée le 22 avril dernier suite à l'assassinat de touristes dans le Cachemire indien. 26 victimes au total, obligées de décliner leur appartenance religieuse, l'hindouisme, avant d'être exécutées. Pour le gouvernement indien, aucun doute possible, l'attaque portait la signature du Pakistan, ce que ces derniers a démenti formellement, mais sans vraiment convaincre son voisin. D'où la montée des tensions au début de semaine, les attaques de l'un succédant aux ripostes de l'autre, opération Sindoor côté indien, opération Mur de plomb côté pakistanais, bombardements aériens, sites stratégiques visés, population paniquée. Pendant plusieurs jours, les appels à la désescalade sont restés lettre morte. Alors une fois de plus, c'est le Cachemire qui est au cœur du conflit, un territoire au cœur de l'Himalaya où vivent près de 20 millions de personnes. Les deux frères ennemis se disputent sa souveraineté et se sont déjà opposés à 3 reprises dans le passé. Une première fois en 1947, au moment du démantèlement de l'Empire britannique et de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, puis en 1965 et en 1999. En 1999, Islamabad venait de rejoindre New Delhi au rang des puissances nucléaires, mais la diplomatie américaine avait réussi à calmer le jeu. En a-t-il été de même cette fois-ci? Si le contexte n'est plus le même, si les relations internationales sont plus brutales et plus décomplexées, la dissuasion nucléaire a-t-elle au moins provisoirement joué son rôle pour apaiser des esprits surchauffés? Thomas Gomard, cette dissuasion, ce risque d'un conflit qui deviendrait un conflit nucléaire, ça a pu jouer dans ce qui n'est alors pour l'instant qu'un apaisement après plusieurs jours de tensions extrêmement fortes?
Avant de répondre, peut-être rappeler que le Cachemire est directement lié aux identités nationales de l'Inde et du Pakistan depuis 1947. Il y a eu, vous avez mentionné 3 conflits, il y avait également eu le conflit en 1971 qui a été très très meurtrier.
Qui a abouti à l'indépendance
voilà,
du Bangladesh.
Absolument. Et en réalité, c'est une situation qui est d'emblée mal née. Et que cette situation qui avait été, qui avait fait l'objet d'une première mobilisation des Nations Unies à l'époque, hein, dans les toutes premières années des Nations Unies, n'a jamais résolu la situation politiquement. Et au fond, on est comme ça, de manière cyclique, rappelé par cette situation n'est encore une fois des conditions de création de l'Inde et du Pakistan. Le deuxième élément, c'est que il y a une forte asymétrie entre cet attentat terroriste qui rappelle celui de 2008 à Bombay et une opération aérienne de très grande ampleur lancée en représailles par l'Inde à laquelle ensuite le Pakistan a répondu. Et donc cette asymétrie, en fait, à mon avis, mérite d'être relevée parce que elle reflète précisément la situation politique non résolue que je mentionnais dans le point initial. La troisième chose, à mon avis, importante à rappeler, c'est que ça se passe au Cachemire. Le Cachemire se situe à l'Himalaya, dans l'Himalaya, ce qui est une région absolument essentielle pour, je dirais, l'habitabilité du système Terre, un peu comme l'Amazonie ou comme le fleuve Congo, et que c'est une région à laquelle on prête très peu d'attention en Europe, alors même qu'elle est tiraillée par cette rivalité entre l'Inde et le Pakistan, mais également avec les ambitions de la Chine. Et je pense que c'est important à rappeler parce que on est au fond dans une situation dans l'Himalaya de très forte dégradation environnementale, accéléré, notamment sur le plan des glaciers, qui a des incidences politiques peut-être qu'on ne voit pas en première approche dans une lecture très militaire des choses. Mais en réalité, l'Himalaya a fait l'objet d'aménagements extrêmement lourds en termes d'infrastructures qui expliquent aussi beaucoup, à mon sens, la difficulté à résoudre la situation politique que je mentionnais initialement.
Notamment sur la question de l'eau, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et une des premières, d'ailleurs, mesures de représailles de l'Inde a été de remettre en cause le traité bilatéral sur la gestion de l'Indus, signé en 1960, comme une sorte de représailles par usage de l'eau. Et cette séquence de tension intervient à un moment, à mon avis, assez intéressant, qui était un moment de normalisation, tentative de normalisation des relations entre l'Inde et la Chine, après les incidents, enfin plus que des incidents, après l'attaque de 2020 entre l'Inde et la Chine qui avait fait une vingtaine de morts. Pendant 4 ans, 5 ans, les deux pays se sont très peu parlé et au fond depuis Kazan, le sommet de Kazan d'octobre dernier, on avait une tentative de normalisation. Et donc j'y vois, si vous voulez, le rappel que cette zone à laquelle on prête très peu d'attention en Europe reste explosive et qu'à mon avis la phase dans laquelle on est effectivement peut s'expliquer par le fait que la dissuasion nucléaire a fonctionné ça ne résout absolument pas la question du Cachemire sur le plan politique.
Et vous avez parlé du rôle de la Chine, il faut aussi d'ailleurs rappeler ou mentionner le fait que une partie du Cachemire est contrôlée aussi par la Chine, ça n'est pas seulement l'Inde et le Pakistan. C'est vrai que c'est une région à laquelle on s'intéresse traditionnellement assez peu en Europe, ou en tout cas en France, Natacha Valla. Mais justement, est-ce que ne serait-ce que la dimension de puissance nucléaire face à face nous oblige quand même à y prêter une attention plus que soutenue?
Une attention soutenue aussi parce qu'effectivement la Chine fait partie du jeu local, régional, et aussi parce qu'on a des populations immenses. Il ne faut pas oublier que le Pakistan à lui seul, c'est la cinquième population mondiale. On a 375 millions d'habitants. On a quand même, 240 millions d'habitants, un PIB qui est, c'est un pays à revenus intermédiaires dans la tranche basse. Donc, on a trois grandes puissances quand même qui sont très très inégales et en tension les unes avec les autres pour des raisons différentes. Alors la dimension militaire avec la dimension nucléaire rajoute une potentialité à ces tensions. Mais je pense vraiment que moi, ma lecture de cette région, si je prends l'angle pakistanais, parce que c'est sans doute l'économie la plus intéressante si on prend l'angle économico-militaire, c'est que c'est une économie qui va mal depuis les années 70, le Pakistan. Le Pakistan, il s'est industrialisé un peu comme tout le monde. Il y a eu des phases assez porteuses, assez fastes. Et puis, depuis les années 70, avec des conflits qui ne l'ont pas forcément aidé, eh bien, on se rend compte que de plus en plus, c'est un pays qui est dépendant de ce qu'on appelle les remittances, enfin les transferts d'argent des diasporas. Donc dépendant de ce soutien-là, dépendant du financement extérieur. Il y a une dette extérieure au Pakistan. Et quand je vous décris ça, ayez en tête qu'en face, c'est la Chine et l'Inde, qui sont quand même les deux grands émergents, que ce soit au niveau de la croissance, de la puissance industrielle, de la puissance de service, et donc aussi derrière avec une potentialité militaire. Donc,
et la puissance démographique, hein, l'Inde, ces derniers mois, est devenue la première puissance mondiale en termes de population.
Mais par rapport à nos échelles, à nous, européens, j'allais dire, on est quand même dans une autre dimension. Et pour le Pakistan, en réalité, Il y a une sorte de paradoxe qui est que le Pakistan, depuis plusieurs années, est sous programme FMI, il ne faut pas l'oublier. Il y a une dette énorme, des déficits systématiques. Donc, c'est un pays en faillite qui doit pour autant montrer sa force et qui se sent, par le biais de ce conflit, mais aussi par le biais de l'impulsion économique donnée par son voisin, et une impulsion qui est encore grandissante dans le contexte actuel de tensions sino-américaines. Donc, on a d'une part une aide multilatérale pour un pays qui doit être fort régionalement, avec une pratique et une non-pratique de la stabilité qui est vraiment diffusée dans toutes les sphères d'activité, qu'elles soient économiques, sociétales ou politiques.
Bertrand Badie, dans toutes ces grilles de lecture, laquelle est-ce que vous retenez, vous, en priorité? Il y a une grille de lecture économique, grille identitaire, grille géographique, grille stratégique, militaire.
Alors j'en ajouterai deux, si vous permettez, pour ajouter à la confusion. D'abord, la dimension sociale. Ce sont deux pays qui sont confrontés à des crises sociales extrêmement graves. Prenons le meilleur indicateur, qui est l'indice de développement humain. Le Pakistan est au 129e rang en termes d'IDH. L'Inde, qui est la 5e ou 6e économie mondiale, est au 132e rang en matière d'IDH, avec une proportion de la population sous le seuil de pauvreté qui ne diminue pas. Hein. Donc, il faut voir qu'en toile de fond de cet affrontement, il y a deux pays de souffrance sociale. Ceci étant posé, moi, ce qui me semble plus intéressant et peut-être le plus préoccupant, c'est le fait que les indicateurs politiques traditionnels vont tous dans le mauvais sens. C'est-à-dire, effectivement, il y a une base identitaire dans la construction de ces deux États qui demeure et qui s'est aggravée. Faut pas oublier, quand il y a eu la partition en 1947, celle-ci avait été revendiquée par la minorité musulmane de l'Empire britannique et avait pour leader un certain Mamdali Jinnah, mais Jinnah était un musulman laïque. L'homme qui mangeait au petit-déjeuner des eggs and bacon, qui buvait du whisky, qui avait une collection impressionnante de cravates, mais surtout cet homme n'avait aucune considération religieuse en tête. Simplement, il disait, mais la minorité musulmane, si elle reste minorité dans l'Inde, elle sera toujours marginalisée et exclue du pouvoir. Donc, c'était une rationalité politique. Cette rationalité politique, en s'officialisant, est devenue une rationalité identitaire. C'est-à-dire que c'est la partition qui a inventé cette tension identitaire et non le contraire. Et donc, effectivement, à chaque fois qu'il y a un contentieux entre ces deux pays, vous rappeliez très justement que ces contentieux ont été nombreux, ils prennent immédiatement une forme extrême que plus personne ne peut contrôler. Et l'organisation Lashkar Taiba, qui était à l'origine de l'attentat que vous signaliez tout à l'heure, est une organisation d'inspiration djihadiste, très liée à Al-Qaïda, liée aussi, semble-t-il, à l'Arabie Saoudite. Donc on voit très bien comment tout de suite la flamme identitaire rend incontrôlable le processus de confrontation. Et puis, il y a un deuxième élément, cette fois-ci plus conjoncturel que structurel, qui est que sur le plan politique, ces deux pays vont également très mal. Modi a mené une politique extraordinairement nationaliste, répressive, même de persécution active de la minorité musulmane. Donc tout ça n'est pas fait pour rassurer la population musulmane et la population pakistanaise. Il a perdu les élections, il a pu se maintenir au pouvoir grâce à une coalition bricolée, et donc sa seule chance de pouvoir perdurer, c'est de jouer de cette fibre nationaliste qui est en même temps de l'explosif. Donc tout ça rend la chose compliqué, mais heureusement, dernier paramètre, il y a ce que Thomas soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet de dissuasion. On comprend bien que ni à Islamabad, ni à New Delhi, personne n'ait intérêt à ce que cette confrontation dégénère. Donc le problème est de savoir si cette raison absolue aura l'ascendant sur cette fibre identitaire que nul ne peut arrêter aujourd'hui, et surtout sur cette instabilité politique. Je parlais de l'instabilité politique de l'Inde, mais au Pakistan, c'est la même chose. Le gouvernement actuel de Shehban Sharif n'avait pas gagné les élections. C'est Imran Khan qui l'avait gagné, mais on s'est arrangé pour l'exclure du pouvoir. Donc c'est une sorte d'équilibre parlementaire extraordinairement instable. Là aussi, Monsieur Sharif aurait besoin de mobiliser l'identité nationaliste et musulmane pakistanaise. Est-ce qu'ils vont être capables de tenir tout ça, en contenir toutes ces pressions? Ça, c'est ce que nous verrons. J'ai pas de pronostic, mais je suis pas forcément optimiste.
Voilà, on voit à quel point, en tout cas, c'est précaire. Avec, alors, peut-être d'un côté, la raison avec cette dissuasion nucléaire, avec deux pays d'ailleurs qui ont des forces à peu près équivalentes du point de vue nucléaire. Je crois que c'est 172 ogives nucléaires pour l'Inde, 170 pour le Pakistan. Enfin, à quelques ogives près, disons. Et puis, d'un autre côté, effectivement, ces tensions identitaires. Et puis, peut-être un niveau supplémentaire, Laetitia Strojbonnar, qui est aussi le contexte international. C'est-à-dire, on est aussi dans un moment, dans une période où on voit bien à quel point l'arrivée notamment de Donald Trump a peut-être pu aussi décomplexer et déverrouiller certaines velléités. Est-ce que ça peut jouer aussi? Est-ce que c'est aussi un élément à prendre en compte dans la tension qu'il peut y avoir aujourd'hui entre l'Inde et le Pakistan?
Alors il est difficile de démêler la cause de l'effet, mais il est évident en effet que nous vivons aujourd'hui dans un monde de crise, et j'aimerais citer à ce sujet le journaliste américain Robert Kaplan, que vous connaissez sans doute, qui est l'auteur de La Revanche de la géographie, qui vient de publier un livre il y a deux mois, qui s'appelle, donc n'a pas été traduit en français, hein, The Wasteland. On pourrait traduire ça par la terre vaine. Et où il fait une analogie entre le monde d'aujourd'hui et l'Allemagne de Weimar. Alors, vous me direz, mais quel rapport? Eh bien, en fait, pour lui, le rapport, il est...
Quel rapport? Parce que vous voulez que je vous le dise?
Oui, eh bien, quel rapport? Il décrit Weimar comme, on le sait, une Allemagne qui est à la fois très divisée, qui est parsemée de crises, mais en même temps très connectée, puisque c'est un pays. Donc, c'est un pays uni sans unité. Et il dit la même chose du monde d'aujourd'hui. Il dit que le monde entier est un monde de crises, de crises plus nombreuses qu'il y a quelques années ou décennies, mais elles sont interconnectées. C'est-à-dire que les crises d'une région ont des conséquences dans d'autres, et puis il y a une connexion qui est généralisée, qui est celle de la technologie. Regardez, nous sommes immédiatement au courant de ce qui se passe là-bas, alors que il y a un certain temps, on aurait dû attendre quand même le temps de la presse, le temps du reportage. Là, on a des vidéos, d'ailleurs parfois aussi de fausses vidéos qui sont montées, qui sont diffusées. Et cela, dit Kaplan, contribue à une espèce d'anxiété généralisée aussi, parce que nous sommes tous spectateurs, parfois un petit peu passifs, de ces circonstances. Et bien sûr, oui, la situation américaine y contribue, la situation en Ukraine, la situation à Gaza, enfin, on pourrait faire une liste de toutes ces crises qui se connectent plus qu'elles ne le devraient, ou même, il me semble. Une chose que je voulais ajouter sur les derniers jours de conflit entre l'Inde et le Pakistan, c'est que on assiste déjà à un conflit qui est plus intense, qui est le plus intense depuis 25 ans, et par ailleurs, il y a une utilisation d'armes de pointe qui n'était pas forcément le cas avant. Maintenant, ils utilisent des drones, par exemple. Enfin, il y a quand même un niveau de conflit, un niveau de danger du conflit qui monte. C'est pour cela aussi que c'est une raison d'inquiétude. Et puis vous avez mentionné la Chine. C'est vrai qu'on évoque très peu la présence de la Chine au Cachemire, mais elle est là. Et c'est d'ailleurs une raison pour lesquelles l'Inde n'est pas très à l'aise avec le projet de des nouvelles routes de la soie, parce que la présence de la Chine et la présence aussi l'existence du Cachemire pakistanais permet en fait à la Chine d'avoir un accès vers l'Asie centrale qu'elle n'aurait pas en fait si l'Inde possédait tout le Cachemire. Donc vous voyez, il y a des imbrications de multiples enjeux.
Encore un mot peut-être sur, alors notamment d'ailleurs l'utilisation des armes, Thomas Gomard, il y a des drones, et puis il y a aussi des rafales. Il y a des rafales du côté de l'Inde qui sont utilisées ou qui peuvent être utilisées dans ce conflit. Est-ce que ça fait de nous, Français qui avons vendu des armes, des alliés obligatoires de l'Inde s'il devait y avoir une guerre avec le Pakistan? Est-ce que on serait automatiquement des alliés, voire considérés comme des co-belligérants?
L'Inde et la France ont noué un partenariat stratégique. L'Inde étant un des piliers de ce qui a été présenté comme la stratégie indo-pacifique de la France à partir de 2016. Et bien souvent, on a l'impression que ces documents de doctrine sont construits sur des ventes d'armes. Et le fait qu'aujourd'hui, l'Inde cherche à diversifier ses fournisseurs, elle était traditionnellement très liée à l'URSS puis à la Russie pour ses systèmes d'armes. Et aujourd'hui, elle s'approvisionne majoritairement en France, aux États-Unis, auprès d'Israël également. Et effectivement, un élément où on a une relation stratégique très, très forte entre l'Inde et la France. Il faut rappeler qu'il y avait une tentative de construction d'une relation stratégique avec le Pakistan jadis, qui a fini par un attentat contre les ouvriers de DCN à l'époque qui construisaient des sous-marins pour le Pakistan. Donc indirectement, la France est liée. Moi, il y a un autre aspect, à mon avis, sur lequel il faut peut-être porter l'attention. Ce sont les ambitions de la diplomatie indienne depuis 10 ans, depuis que Modi est là, qui a beaucoup œuvré en termes de multi-alignement, qui multiplie les partenariats, qui est aussi assez... très critique à l'égard des Européens. Je pense que tout le monde a en tête la formule du ministre Jaishankar. L'Europe doit changer de mentalité car elle continue de croire que ses problèmes sont les problèmes du monde, mais que les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Europe, qui avait eu un très large écho et qui montrait cette ambition indienne d'être beaucoup plus présente à l'échelle globale. L'Inde voudrait devenir membre permanent du Conseil de sécurité. À ce titre, elle est soutenue par la France. Je crois que ce qui se passe avec le Pakistan la renvoie à sa dimension régionale.
Un dernier mot, Bertrand Badi.
Oui, je crois que Thomas a raison de réviser la notion d'alliance, parce que autrefois c'était très simple. Enfin, très simple déjà, pas tout à fait. L'Inde, c'était le bloc soviétique, et le Pakistan était en même temps l'allié des États-Unis et de la Chine. Mais il faisait partie d'un pacte d'alliance qui s'appelle le CENTO, qui le liait aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Iran, à la Turquie, etc. Or, aujourd'hui, on est dans la souplesse et la fluidité absolue. Effectivement, Subramanian Jaishankar a toujours eu pour politique de parler de multi-alignement, et on voit bien comment, dans le chaudron actuel, l'Inde agit, c'est-à-dire l'Inde cherche à envoyer des signaux aux États-Unis en disant « mais vous n'avez pas d'autre choix que de nous soutenir ». Et c'est probablement pour ça que M. Modi ne s'est pas rendu à Moscou au fameux défilé du 9 mai, contrairement par exemple à Lula da Silva. C'est très intéressant, c'est ce que j'appelle la diplomatie d'aubaine, c'est-à-dire on va fixer sa posture en fonction des besoins immédiats. Il y a une aubaine pour reconstituer un axe entre New Delhi et Washington, et on va le jouer. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelque chose quand même de commun entre la politique de Netanyahou et la politique de Modi. D'abord, c'est des personnages qui s'entendent bien, hein, qui se connaissent bien, et qui partent quand même de cette réactivation du nationalisme pour conforter une position politique et partisane finalement assez fragile. Et donc, qu'a fait Modi ? Il faut quand même le rappeler ici, il a aboli l'article 370 de la Constitution indienne qui accordait une autonomie au Cachemire. C'est un premier pas vers ce qui ressemble à la stratégie de Netanyahou en direction de la Cisjordanie et a fortiori de Gaza. Donc ça, il faut le suivre comme le lait sur le feu. Je sens que vous voulez que j'arrête, j'arrête là.
Non, je voudrais vous continuer, mais peut-être sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que c'est une diplomatie d'aubaine qu'a pratiqué le Vatican en nommant ce nouveau pape né aux États-Unis, qui correspond aussi peut-être à certains besoins diplomatiques. En tout cas, le successeur du pape François est désormais connu. Il s'appelle Léon XIV.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
À toutes les personnes, où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre, la paix, que la paix soit avec vous. Dieu aime tout le monde. Le mal ne prévaudra pas. Nous sommes tous dans les mains de Dieu. Sans peur, tous unis, main dans la main, avec Dieu.
Allez, il y a peut-être un petit peu de déception, je dis, de ce côté-ci des Alpes, en apprenant que le nouveau pape ne serait pas français, mais une déception vite dissipée par la surprise. pour la première fois, le souverain pontife est originaire des États-Unis. Un Nord-Américain, le cardinal Robert Francis Prevost, succède à un Sud-Américain, Jorge Mario Bergoglio. François est mort, vive Léon XIV. Alors, si les catholiques sont concernés au premier chef par cette élection, l'identité du nouveau pape excède largement la seule sphère religieuse et spirituelle. Certes, Léon XIV se retrouve à la tête d'un micro-État, le Vatican, mais il s'apprête à guider une communauté estimée à plus d'1,3 milliard de fidèles, en augmentation ces dernières années. De quoi avoir une parole qui pèse sur la scène internationale, comme ce fut le cas pour nombre de ses prédécesseurs. Alors évidemment, la nationalité du nouveau pape intrigue. Léon XIV arrive au sommet au moment où Donald Trump, son compatriote, bouleverse les affaires du monde. Ces deux-là ont-ils grand-chose en commun? On se souvient de la dernière image officielle du pape François. C'était quelques heures avant sa mort, une conversation avec le vice-président américain, le très pieux J.D. Vance. Alors est-ce que ce nouveau duo Donald Trump-Léon XIV aura des choses à se dire? Est-ce que le nouveau pape est un peu l'antithèse du président américain? Pour commencer cette discussion, Natacha Valla, sur la dimension peut-être politique, diplomatique et géopolitique, c'est toujours le cas quand il y a un nouveau pape. C'est-à-dire, ça n'est pas seulement un guide spirituel qui est élu.
Vous l'avez rappelé, c'est un chef d'État. Bon, l'État est quand même assez microscopique. Hein, ça fait 800 habitants, le Vatican, quelques dizaines d'hectares. Mais enfin, quand même, l'occasion d'exercer symboliquement une conduite des affaires de l'État qui doit permettre de faire modèle. Et là, si j'entre dans le sujet par là, c'est vrai que le pape François avait quand même mis en place des choses. On a un bilan consolidé pour l'État du Vatican aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Bilan consolidé, ça c'est du vocabulaire d'économiste.
Non, mais ça n'a pas passé. Donc, il y a des déficits, etc. Mais enfin, les affaires de l'État sont plutôt bien conduites et il y a un effort de transparence dans la bienveillance, si on peut dire ça comme ça, qui doit rayonner en tant que symbole. Et puis, il me semble que cette notion de paix, enfin, on en a parlé tout à l'heure, on parle de guerres de partout, de conflits qui sont interconnectés, de choses qui se... La notion de paix aujourd'hui a plus que valeur que jamais, à l'échelle de nos vies humaines. C'est-à-dire qu'on a, nous, génération, enfin, nous, autour de la table qui nous parlons, on a eu la chance de vivre dans un environnement où la paix était considérée comme donnée. Là, il nous rappelle que c'est un élément essentiel pour le bien commun et pour la prospérité du monde. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas neutre et qui doit peut-être pouvoir servir de corde de rappel dans certains contextes de négociations qui peuvent être des négociations difficiles car multidimensionnelles, en ajoutant cette dimension qui est politique et spirituelle à la fois. Et ce que j'ajouterais peut-être aussi, c'est que il y a une dimension qu'on commente de façon assez orthogonale à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, mais la faiblesse du rôle de l'État, notamment dans les économies avancées, les États européens, les États-Unis, dans ses fonctions essentielles pour conduire, j'allais dire vers le bien la société, mais pour conduire la société de façon constructive autour du bien commun. L'éducation, la santé, le soutien aux plus démunis. Là, l'Église catholique a une place encore absolument majeure. Il y a plus de 200 000 écoles qui sont encore aujourd'hui dans le monde sous l'effigie catholique. Alors certains nous diront, bon, c'est pas une bonne chose, mais ça peut en principe s'est porté autour de valeurs positives. Plus de 60 millions d'élèves. Dans la santé, il y a plus de 20 000 établissements de santé dans le monde. C'est la deuxième entité, après les États, de services de santé dans le monde. Donc cette fonction de substitution, par le biais de ces institutions qui sont des institutions du monde catholique, ça dit quelque chose aussi sur, en retour, en effet miroir, sur ce que doivent apporter les États dans le monde d'aujourd'hui.
Laetitia Strauss-Bonnard, ce pape Léon XIV, né aux États-Unis, qui a pratiqué une grande partie de son magistère au Pérou, donc en Amérique du Sud, est-ce que c'est le pape qu'il fallait à ce moment-là de notre histoire commune?
Alors ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce qu'on parle de politique? Est-ce qu'on parle même de doctrine de la foi? En fait, vous aurez des réponses différentes en fonction du domaine que vous prenez comme référence. C'est difficile à dire, d'abord parce que il vient juste d'être élu, donc quand même on peut juger ce qu'il a écrit ou ce qu'il a dit dans le passé, mais vous savez bien que l'homme fait la fonction, mais la fonction fait l'homme aussi, et on verra bien aussi par les décisions qu'il prendra, par les défis, les enjeux auxquels il devra faire face, comment il va se comment il va réagir, parce que tout de même les enjeux sont de taille. Alors bon, vous avez cité Natacha Valla, les finances bien ordonnées de l'Église, mais tout de même il me semble qu'elle est en déficit. Et puis il y a le défi de la religion évangélique qui prend des parts de marché, si j'ose dire, aux autres chrétiens. Et que dire ensuite du scandale des abus sexuels dans l'Église, qui est un enjeu colossal et qui fait aussi aujourd'hui que beaucoup de catholiques quitte l'Église catholique. Et ça n'est pas rien. Et j'espère en tout cas que ce pape saura faire face à ce problème qui est gigantesque. Alors je pense que votre question faisait peut-être aussi allusion à la comparaison qu'on peut faire entre ce pape et le président américain actuel, Donald Trump. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de les comparer. On peut se demander aussi s'il n'a pas été choisi pour faire une sorte de contrepoids, disons, moral vis-à-vis de Donald Trump. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que comme Donald Trump est très patriote, sa première réaction quand même a été de s'enthousiasmer et de dire qu'il était vraiment très très content. It's very exciting. Bon, c'est très enthousiasmant. Bon, on verra bien aussi ce qu'il adviendra de cette relation. Alors une autre question qu'on entend se poser depuis deux jours, c'est un peu la question constante de savoir si ce pape est un conservateur ou un progressiste. C'est un petit peu, une tarte à la crème, je trouve, de ces débats, parce que je ne crois pas que ce soit forcément l'angle le plus intéressant, mais on est quand même obligé de se poser la question. Et là, il se situe peut-être au milieu. Alors, juste milieu, je ne sais pas, ou bien centriste pour ne pas choisir. voilà, le Beyrou de l'Église catholique. En tout cas, il a des positions équilibrées et même contrastées. Sur les questions, qui concernent le séculier, il a quand même pris des positions proches de celles du pape François sur la nécessité d'aider les migrants et les plus démunis, mais d'autres commentateurs soulignent qu'il a été très critique de l'homosexualité il y a une dizaine d'années. Donc, quel sera son point de vue sur la possible bénédiction d'union homosexuelle dans l'Église ? On ne sait pas. Sur d'autres sujets, il est assez conservateur finalement. Remarquez qu'il a repris l'habit traditionnel du pape que le pape François avait laissé au profit, de l'habit blanc qui le caractérisait. Et autre chose très importante, autre débat très important, le rôle des femmes dans l'Église. Là-dessus, il semble aussi très conservateur. Donc ce qui me frappe en tout cas, c'est qu'il semble assez conservateur sur les questions qui concernent l'Église et plus progressiste pour les questions qui concernent l'extérieur de l'Église. Donc si je peux me permettre un jeu de mots qui sera bon ou mauvais, je ne sais pas, il est conservateur urbi et progressiste orbi.
Ça me paraît excellent, Bertrand Badi, mais tout ça fait presque une synthèse, c'est-à-dire que si on suit un peu le portrait que vient de dresser Laetitia Strolbonin, c'est-à-dire c'est un pape chez qui, croyant ou pas croyant, catholique plutôt conservateur ou catholique plutôt progressiste, on peut trouver des choses qui nous conviennent.
Je crois qu'il faut ajuster la question avant de donner la réponse. Et moi, ce qui m'a frappé depuis l'élection de ce nouveau pape, c'est l'automatisme des questions. Est-ce qu'il est conservateur? Est-ce qu'il est progressiste? Est-ce qu'il est de droite? Est-ce qu'il est de gauche? Est-ce qu'il est trumpien? Est-ce qu'il est non-trumpien? Etc. Je pense
J'ai
pas...
bien fait de pas vous poser ces questions-là.
Et voilà. Donc j'en fais l'économie. Je pense qu'il faut faire l'effort de voir quelle est la fonction du pontificat dans le système international globalisé tel que nous le connaissons. Alors, il y a eu trois moments, ou plutôt trois moments se sont succédés. Le premier moment, c'était une tâche infiniment politique. Le temps de la théocratie pontificale, où le pape dominait même les monarques. Puis ensuite, en tous les cas, d'un jeu politique et diplomatique actif qui nous a mené pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où on parlait de diplomatie vaticane. Depuis que Staline a asséné cette phrase terrible et assassine, mais le pape, combien de divisions, on l'a un peu chassé de l'espace diplomatique. Puis il y a un deuxième temps, qui est le temps de dire le pape n'est plus un diplomate, vu ce que le monde est devenu. En revanche, c'est un influenceur, pour employer un terme à la mode, c'est-à-dire quelqu'un qui peut peser sur la structure du comportement de plus d'un milliard d'humains, ce qui n'est pas négligeable. Et du coup, ça déportait, on retrouve Jean XXIII, on retrouve Paul VI, on retrouve Jean-Paul II, et peut-être Benoît XVI, vers un discours peut-être plus moral, plus éthique, plus persuasif. Moi, je me demande si ce temps n'est pas terminé et si on ne se trompe pas en voulant absolument comprendre le pape François, qui était le grand révolutionnaire de l'affaire, et Léon XIV. J'ai toujours peur de dire son nom parce que j'ai peur de glisser vers Louis XIV sans m'en rendre compte. Donc, il faut une nouvelle grille. Qu'est-ce que c'est que le pape depuis François? C'est ni un diplomate, ni un influenceur, c'est un énonciateur. Et c'est ça la révolution. C'est-à-dire quelqu'un, une voix audible sur la scène mondiale qui ne parle pas à partir des États ou même à partir des intérêts constitués, mais à partir d'un référent universel. Moi, je vois un seul concurrent à cela, c'est le droit. La parole de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale, en disant non, là, vous allez, vous commettez des crimes contre l'humanité, vous commettez des crimes de guerre, etc. Et cette voix pontificale, c'est le jeu qui a été celui de François.
Quand vous dites concurrence, ça ne veut pas dire que c'est forcément compétition l'un contre l'autre.
Non, c'est parallèle, oui, il faudrait mieux dire parallèle. C'est-à-dire, effectivement, dans un monde globalisé, fatalement, on voit apparaître des voix universelles qui se détachent de la parole classique de la compétition interétatique. Et François l'a réalisé sur l'immigration, sur les grands défis climatiques et planétaires, c'est sa fameuse encyclique, Laudato Si, et également ce discours humaniste régénéré. Et si vous vous placez dans une logique d'énonciation, vous n'arriverez jamais à trouver la réponse aux questions posées. C'est-à-dire, il n'a pas à être a priori anti-trumpien, pro-OTAN, anti-OTAN, etc. Il énonce des choses qui vont peser sur le système international. Alors, pour ça, et réaliser ça, il faut énormément de charisme, ce que François avait, hein, et j'espère que ça sera bientôt Saint François, parce qu'il a joué un rôle extraordinaire, c'était le premier pape de la mondialisation, mais est-ce que Léon XIV l'aura?
Laissons-lui un petit peu de temps, peut-être, pour ça. Thomas Gomard.
D'abord, une observation, c'est que Léon XIV est présenté comme un pape américain. En réalité, c'est un pape des Amériques, parce qu'il a aussi la nationalité péruvienne, et une bonne part de ses missions ont eu lieu au Pérou. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce que l'Amérique latine est une des régions les plus dynamiques pour le catholicisme, et François était lui-même argentin, donc il n'est pas simplement citoyen des États-Unis, il est aussi citoyen du Pérou. Le deuxième point, c'est que effectivement on a eu ces dernières semaines l'impression de rejouer une vieille, pas querelle, mais une ligne de partage historique entre l'empereur et le pape. L'empereur étant évidemment Donald Trump, qui à la fois envoie son premier affidé, J.D. Vance, dans les conditions que vous avez rappelées, lequel s'est converti au catholicisme et donne des leçons de catéchisme très volontiers. Mais il faut aussi rappeler qu'à son retour des obsèques du pape François, Donald Trump a tweeté une photo de lui, probablement réalisée avec de l'intelligence artificielle, en souverain pontife. Ce qui, à la fois, a été présenté comme une blague par le vice-président, mais ce qui a beaucoup choqué les catholiques aux États-Unis. On estime qu'il y a 20% de catholiques aux États-Unis et que 60% d'entre eux auraient voté pour Donald Trump. Et je crois qu'au-delà de la blague, il y a quelque chose, effectivement, d'assez fondamental. Je reprendrai volontiers le terme de Bertrand Badie sur le pouvoir d'énonciation du pape dans un système global où la papauté elle est présente géographiquement en Europe sur des terres qui sont en train de se déchristianiser de manière très rapide et trouve des relais effectivement en Amérique latine, en Afrique et donc est capable de se réinventer. Néanmoins, j'irai peut-être moins vite que Bertrand sur la béatification attendue du pape François, notamment en matière diplomatique. Parce qu'effectivement, il a été présenté comme le pape du Sud global, avec un discours extrêmement critique par rapport aux Européens, au regard de leur attitude historique. Mais moi, je le trouve d'une complaisance très forte avec l'effort, et en particulier avec la Chine et la Russie. Et il y a là aussi, à mon avis, un message peut-être à analyser. On verra comment Léon XIV le lit. Mais que ce soit l'accord secret avec la République populaire de Chine de 2018 ou que ce soit les positions du pape François sur la guerre d'Ukraine, on a l'impression que sa critique des puissances, on va dire, occidentales est beaucoup moins forte vis-à-vis de la République populaire de Chine et de la Russie. Autrement dit, un Sud global qui oublie peut-être les directions prises pour envoyer au début de notre conversation par la Chine et la Russie.
Un tout dernier mot sur le nouveau pape Laetitia Strauss-Bonnard. Est-ce que Léon XIV devrait davantage peut-être choisir son camp comme l'a fait son prédécesseur François?
Alors oui, sur l'Ukraine, je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à la Chine également. Je reprendrai mot pour mot ce que vous venez de dire. On peut quand même, pour finir, avoir un regret vis-à-vis de ce choix. Peut-être qu'un pape africain aurait été un bon choix, parce que tout de même, aujourd'hui, les religieux, les missionnaires qui sont en Afrique, les prêtres, effectuent un travail très difficile dans des conditions quand même qui ne sont pas celles de l'Occident. Et donc, on peut se demander quand même pourquoi, ou on ne s'est pas tourné vers ce sud-là. Et peut-être que le prochain pape sera africain. En tout cas, pour ma part, je l'espère.
Eh bien, on va voir si, en tout cas, ce pape-là, Léon XIV, aura une action, une influence sur un des conflits, évidemment, dont on parle très régulièrement dans cette émission, c'est celui entre la Russie et l'Ukraine. En tout cas, les choses bougent, petitement ou pas, vous allez nous le dire dans un instant. Mais il y a eu donc cet ultimatum adressé par les Européens à la Russie, c'était hier, enfin en tout cas quelques Européens, accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours à partir de lundi avec l'Ukraine, sous peine, disent ces Européens à Vladimir Poutine, de nouvelles sanctions, et on l'écoute à travers la voix de Emmanuel Macron.
Nous avons un instant, tous ensemble, ici présents, avec la vingtaine de pays membres de la coalition des volontaires, décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, sans aucune précondition, et qui permettra d'engager de manière immédiate les travaux et négociations entre les parties prenantes pour bâtir cette paix robuste et durable sur la question des territoires et la question évidemment des garanties de sécurité.
Voilà donc un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours à compter de ce lundi, donc demain. C'est la proposition faite hier à Kiev par ce groupe de dirigeants européens composé du français Emmanuel Macron, du britannique Keir Starmer, de l'allemand Friedrich Merz et du polonais Donald Tusk. Proposition appuyé par l'américain Donald Trump et assorti donc d'une menace. Si Vladimir Poutine refuse, un nouveau train de sanctions sera décidé. Réponse quelques heures plus tard du président russe. La Russie est prête à des négociations sans aucune condition préalable et elle se dit prête à des négociations dès jeudi prochain à Istanbul en Turquie. Le président ukrainien ce matin, Volodymyr Zelensky, a dit que l'Ukraine était aussi prête à des négociations. Natacha Valla, est-ce que les Européens ne sont pas en train de prouver qu'ils ont adopté la bonne stratégie depuis le début de l'année, c'est-à-dire en tenant bon et d'un côté face à Vladimir Poutine et de l'autre face à Donald Trump, ce sont peut-être eux qui ont un peu repris la main sur ce sujet.
Ce qui est sûr, c'est qu'on semble bien loin de ce qui se produisait il y a quelques semaines encore, avec des sommets en Arabie Saoudite où l'Europe n'était pas du tout autour de la table, l'Ukraine non plus. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc on a vu une sorte de narratif accéléré et de voix qui n'ont pas abouti et donc auxquelles en ont succédé d'autres. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a cette coalition des volontaires. Donc je trouve que les mots sont quand même bien choisis. Il y a coalition, il y a volontaire. C'est assez subtil aussi parce que dans le fond, il y a les grands militaires européens, j'allais dire au sens continental, avec le Royaume-Uni, la France, enfin voilà, tous ceux qui font vraiment l'embryon aujourd'hui de ce que pourrait représenter une puissance militaire en Europe. L'appui des États-Unis, je trouve que là encore aussi, c'est très diplomatique, quand tout aura subtilement énoncé, pour montrer que finalement, on semble converger vers ce qui pourrait être effectivement une étape nouvelle dans la gestion de ce conflit, avec l'Ukraine qui évidemment a son mot à dire. Moi, ce que ça m'appelle comme question, bien sûr, c'est ce à quoi ça correspond au niveau européen dans les discussions qui se sont construites au fil des semaines. sur la question de la défense, sur la question militaire. On sait qu'il y a eu cette prise de conscience à grande vitesse, cette mobilisation aussi des connaissances par rapport aux capacités militaires de production dans différentes sphères de l'activité militaire, les positions des uns et des autres, avec des pas en avant, des pas en arrière, vis-à-vis de la production américaine. Donc tout ça semble avoir fait son chemin sous des formes qui, alors, n'ont pas toujours été médiatisées, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu mou, enfin pas très tangible ce dont on dispose, mais en tout cas, cette annonce et cette prise de position, avec une réponse de Moscou, et avec chacune des parties prenantes qui a pu avoir son mot à dire, moi je pense que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le positionnement de l'Ukraine et de l'Europe ensemble dans la gestion de ce conflit.
Vous êtes d'accord, Bertrand Badie ?
Non. Amicalement, non. Alors évidemment, je reconnais que l'Europe montre qu'elle a fait le bon choix depuis le début, hein, depuis février 2022, en rappelant que le principe essentiel, c'était de dénoncer l'agression de la Russie contre l'Ukraine et de rappeler les principes fondamentaux du droit international, l'intégrité territoriale et le droit du peuple ukrainien à s'autodéterminer. Là, nous sommes totalement d'accord. Seulement, regardez la géométrie de tout ce qui se passe, je dirais, depuis l'élection de Trump à la Maison-Blanche. Lorsque les États-Unis agissent, ils le font systématiquement seuls, c'est-à-dire sans se doter d'un accompagnement européen.
Ben c'est pas le cas là, c'est quand même les Européens qui obtiennent l'aval des États-Unis, donc c'est bien quelque chose de qu'ils font ensemble.
Hervé Gardette.
Oui.
Quand les États-Unis agissent sur le dossier ukrainien, il n'y a pas d'Européens à leur côté. Lorsque les Européens se sont rendus à Kiev, comme ça a été le cas tout récemment, il n'y avait pas d'États-Unis à leur côté. Lorsque les États-Unis ont déposé la résolution manifeste devant le Conseil de sécurité le 24 février 2025, et que les Européens ont dit « Mais attendez, tous les principes que nous rappelons, intégrité territoriale de l'Ukraine, agression de la Russie, etc., vous ne l'introduisez pas », le représentant états-unien au Conseil de sécurité leur a fait un droit d'honneur. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les Européens auraient pu opposer leur veto à cette résolution, ils ne l'ont pas fait. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de posture réelle et incarnée de l'Europe dans cette bataille juridique. Dernier élément de fait, et c'est ça peut-être le plus inquiétant, décortiquons la réponse de Poutine cette nuit. En quoi a-t-elle consisté ? À dire « moi je suis prêt à tout, mais pas à suivre ce que l'Europe, l'Union Européenne recommande ». C'est-à-dire l'histoire d'un cessez-le-feu de 30 jours, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de tout à fait différent, donc des négociations de paix, dont justement, je note qu'elles devraient avoir lieu en Turquie, alors que la phase, entre guillemets, précédente, c'était en Arabie Saoudite. Que je sache, c'est pas des pays de l'Union européenne. Hein.
Ça s'en aussi... rapproche quand même.
Bon, ça se rapproche pas du tout. Quand vous regardez le profil diplomatique,
la Turquie fait partie de l'OTAN, c'est quand même voilà.
Oui,
on est un peu plus proche de nos intérêts.
Ça a tendance à créer une certaine hilarité quand on en parle. Hein. Il faut quand même voir que le jeu d'Erdogan n'est plus du tout le jeu d'un disciple de l'OTAN. Et s'il a gagné ce rôle de médiateur entre beaucoup de guillemets sur le dossier russo-ukrainien, c'est parce qu'il a su montrer qu'il était adepte de cette union libre diplomatique, de cette fluidité diplomatique qui l'a complètement éloigné du modèle classique de l'alliance. Faut quand même avoir tous ces paramètres en tête. Et la réponse de Poutine cette nuit, c'est une gifle à l'Europe. C'est même pas considérer la proposition européenne, même pas la considérer en disant bah écoutez, moi ce que je veux, c'est une négociation de paix sans conditions en Turquie. C'est la meilleure façon, effectivement, de remiser l'Europe dans cette affaire. Dernière remarque, qu'est-ce que c'est que la diplomatie de guerre ? La diplomatie de guerre est une diplomatie, un, de communication, et on voit bien que cette communication, elle est fondamentalement anti-européenne, et deux, c'est une diplomatie qui permet d'accuser l'autre de ne pas tenir son rôle de pacificateur, que soit on assume. C'est à ce jeu que se livrent Zelensky et Poutine depuis un certain temps. Donc vraiment, rien de nouveau sous le soleil. Hein.
Du nouveau pour Natacha Valla, rien de nouveau pour Bertrand Badi. Est-ce qu'il se passe quelque chose ou bien est-ce qu'on est toujours au même point s'agissant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Laetitia Strauss-Bonnard?
Bien, moi, je proposerais une position intermédiaire. En fait, il y a plusieurs hypothèses. Alors, la première, c'est que voilà, Poutine est prêt à négocier, qu'il ne demande pas de conditions. Bon, voilà, seuls les naïfs pourraient le croire. La deuxième possibilité, c'est que oui, c'est un leurre. C'est un leurre, la réponse de Poutine est un leurre, il ne négociera pas, alors ni avec les Européens, ça on l'a vu, mais ni avec l'Ukraine, et qu'il veut juste gagner du temps. Bien sûr, il a besoin de temps pour permettre à ses armées de se regrouper. Et puis, voilà, l'armée russe est fatiguée. C'est un poids très fort, très lourd pour la population. Donc, il achète c'est un anglicisme. Il achète son temps. il fait durer les choses. Alors, il y a une autre hypothèse. Est-ce que les Européens ne savent pas déjà que ça ne fonctionnera pas? Ils le savent, mais ils font cela pour pousser Donald Trump à voir la réalité en face, à accepter, à reconnaître publiquement que Vladimir Poutine ne veut pas faire la paix et donc finalement le pousser à agir. C'est quand même une hypothèse possible et cette hypothèse-là, elle serait favorable à l'Ukraine et elle serait indirectement favorable à l'Europe, même si les Européens passeront peut-être pour des naïfs. Mais on ne peut pas sous-estimer cette espèce de jeu, de billard à plusieurs bandes.
Mais juste pour que je comprenne bien, Laetitia Strauss-Bonnard, c'est-à-dire en quoi cette initiative des Européens, enfin britanniques, français, allemands, polonais, pourrait avoir une influence sur le président américain?
Eh bien, vous vous rappelez, en mars, quand Donald Trump a proposé cette première trêve, Vladimir Poutine n'a pas accepté les conditions qui étaient pourtant léonines, qui étaient celles de cette trêve. Donc, l'Ukraine aurait dû abandonner à peu près 20% de son territoire. Et bien sûr, la Russie aurait obtenu quand même quasiment tout ce qu'elle voulait, en tout cas pour l'instant. Donc, Donald Trump a finalement est obligé de commencer à reconnaître que la Russie n'a pas envie de faire la paix. Parce qu'au début, rappelez-vous, il a expliqué que tout le monde a envie de faire la paix. Lui, Donald Trump, a envie de faire la paix. La Russie, voilà, tout le monde s'aime. On y arrivera bien parce que lui est très fort. Bon, là, ma théorie, c'est que les Européens se disent, on va montrer à nouveau à Donald Trump que Vladimir Poutine ne veut faire aucun effort. Donc, on fait cette proposition. Vladimir Poutine va revenir vers nous ou vers les Ukrainiens en disant, très bien, mais nous voulons toutes ces conditions. Et là, les Européens pourront dire, mais regardez, il ne veut pas vraiment négocier puisque c'est un jusque-boutiste. J'espère que c'est plus clair.
Oh non, c'est très clair. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse, Thomas Gomard?
Moi, je vois les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'on est très focalisé sur cette question de cessez-le-feu trêve qui intervient dans un moment avec une dimension qui n'a pas encore été évoquée, qui était la mise en scène lors du défilé sur la place rouge de l'amitié sino-russe. Je commence par là, c'est-à-dire que on a de ce point de vue-là quelque chose de très important à rappeler, c'est que Vladimir Poutine propose à son peuple de continuer la Seconde Guerre mondiale, fondamentalement, avec des processus d'effacement historique. Hein, on oublie toujours désormais de mentionner le pacte Molotov-Ribbentrop, ce qui permet d'expliquer à la population russe qu'elle se bat contre les néo-nazis. De la même manière, la diplomatie chinoise ne parle jamais, évidemment, a complètement effacé toute allusion à Tiananmen, notamment. Ça, c'est très important parce que ça se fait, ça, à mon avis, ça montre à quel point la Chine et la Russie sont en train de figer leur position dans une hostilité assez fondamentale à ce qui vient notamment d'Europe. Le deuxième point, c'est que j'ai une lecture différente de celle de Bertrand Badi qui, à plusieurs reprises au cours de cette émission, a mentionné le fait que le Royaume-Uni et la France se sont abstenus sur la bataille juridique au mois de février à l'ONU avec les résolutions ukrainiennes. Moi, je les choses un peu différemment. D'abord, je rappelle que pour la première fois, on a eu une résolution présentée par l'Ukraine. Contre cette résolution, on votait évidemment la Russie et ses affidés, mais également pour la première fois, la Hongrie, les États-Unis et Israël. Bon. Et ça, c'est très important à mon sens, parce que l'abstention du Royaume-Uni et de la France, je l'explique très différemment, c'est qu'à mon avis, elle intervient après l'épisode du bureau ovale, où Zelensky se fait tancer à la fois par Trump et Vance, et que le calcul qui est fait à ce moment-là, c'est de se dire, on a deux caractériels en face de nous, faut pas les braquer. Et l'enjeu à la fois pour les Européens et pour les Russes, c'est comment on fait basculer Donald Trump de son côté. Et moi, j'analyse ce qui vient de se passer comme le fait qu'effectivement, les Européens, dans un format qui correspond à la réalité militaire et du poids des quatre pays que sont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la Pologne, ont plutôt fait basculer de leur côté Donald Trump. On verra pour combien de temps. Ce qui leur offre effectivement un espace pour dire « nous, nous voulons continuer à nous occuper de l'Ukraine, quoi qu'il advienne ». Après, ça ouvre deux questions, à mon avis, assez redoutables. C'est que c'est une chose de l'annoncer, c'est une chose de prendre le train pour aller à Kiev, mais ce sont quatre pays, pour deux d'entre eux, qui le font avec deux leaders qui sont quand même fragiles sur le plan politique. Je pense à Emmanuel Macron et je pense au chancelier Merz, qui a été élu cette semaine, mais dans les conditions que l'on sait au deuxième tour. Et que parallèlement, il y a aussi une fragilité assez fondamentale sur ces fameuses garanties de sécurité, c'est-à-dire que c'est une chose d'avoir une diplomatie américaine un peu plus compréhensive sur le plan diplomatique, c'en est une autre de vouloir exister par eux-mêmes sur le plan militaire pour apporter des garanties de sécurité. Et l'heure de vérité, à mon avis, n'est pas encore là pour ce choix définitif que les Européens auront à faire.
Donc si les positions peuvent paraître figées, on voit qu'aujourd'hui, peut-être, le pion, enfin c'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'appeler, mais c'est du côté de Donald Trump, c'est-à-dire c'est Donald Trump qui est la clé aujourd'hui et qu'on peut amener d'un côté ou de l'autre, Natacha. Voilà.
Il me semble que je vais faire une autre analogie, c'est la rencontre entre Donald Trump et le leader canadien qui lui expliquait très, très poliment que le Canada n'était pas à vendre, avec des exemples très simplistes.
Marc Carney, le nouveau
Premier ministre canadien. Il me semble que là, cette façon de poser le discours, et notamment de poser cette nouvelle unité de l'Europe, ou en tout cas cette unité assumée, ce cheminement, en fait, d'exposer au grand public un cheminement collectif qui n'a pas été facile parce qu'il a fallu qu'on décide de dépenser au moins un point de PIB, si ce n'est plus deux, collectivement sur la défense. On a quand même brisé pas mal de tabous. Et je pense que cette position-là, ne serait-ce que sa valeur, elle est ne serait-ce que dans l'indication qu'elle donne sur le degré d'assurance, finalement, alors tout mesuré, je pense pas qu'il y ait énormément de naïveté dans l'affaire, mais d'assurance de l'Europe, à se dire, voilà, nous, on a fait ce chemin, on est capable d'avoir ce type d'énoncé pour des questions qui sont graves et imminentes et qui ont trait à des négociations en cours, et que c'est une étape, on va voir quelles seront les prochaines étapes. Nous, on a nos petits bras avec les sanctions, alors je sais plus quel train de sanctions, et on a eu une quinzaine déjà, enfin bon. Donc, on en rajoute quand même, donc on a quand même une certaine cohérence dans ces politiques à faible impact européen, mais quand même avec un certain impact, puisqu'il y a des dimensionnalités, des sanctions qui touchent très directement et les actifs et l'intégration financière. Donc voilà, avec les moyens du bord, j'allais dire, et ces moyens du bord deviennent un peu plus tangibles qu'il y a 6 mois de ça, l'Europe assume une certaine position.
Bertrand Badie.
Oui, je voudrais dire mon désaccord amical, très amical, avec Thomas Gomard sur deux points. Très rapidement, il faut pas régler le problème sino-russe en disant, voilà, ces deux alliés, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Il n'est qu'à voir, par exemple, le fait que la négociation sur l'oléoduc Sibérie 2 ne progresse pas, que la Chine n'a pas du tout envie de précipiter un accord avec la Russie sur ce point. Il y a beaucoup d'autres indicateurs. La Chine, c'est très compliqué. C'est pas un allié au sens traditionnel du terme. J'ai déjà dit dans ce micro, le mot alliance, même en chinois, n'évoque rien et rien d'historique dans l'histoire de la politique étrangère chinoise. Deuxième point, c'est sur l'Europe. Justement, l'Europe est à un moment historique où elle est niée, plus qu'écrasée, niée et par la Russie et par les États-Unis. Donc, c'est un moment fondamental pour rappeler son existence propre. Le fait que l'Europe se soit dégonflée diplomatiquement, et j'emploie ce terme à dessein, le 24 février au Conseil de sécurité, montre qu'il n'y a plus de lieu européen dans ce débat diplomatique. Et on voit bien cette succession d'humiliations que subit la diplomatie européenne et l'incapacité de la diplomatie européenne de se loger dans les transactions qui ont lieu en ce moment sur le dossier russo-ukrainien. C'est extrêmement préoccupant.
Il faut toujours trouver une conclusion à cette émission. Elle était pour vous cette fois-ci,
merci,
Bertrand Badie. Merci également à Natacha Valla, à Laetitia Stroche-Bonnard et à Thomas Gomard d'avoir participé à cette émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Fanny Constant avec à la prise de son Alexandre Dang. On se retrouve dimanche prochain.